Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, l'émission préférée de tous les banquiers alsaciens, avec Cédric Simonin,
c'est vrai.
Qui est l'animateur de cette émission. Bonjour Cédric, toujours directeur général, patron, boss de Trianon Résidence.
Je crois, oui.
Aux dernières nouvelles,
en tout cas.
On reçoit Emmanuel Armsdorff.
Bonjour.
Bonjour, c'est pas une première, vous avez déjà reçu. Ouais. Vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel Aménagement Foncier, qui est la filiale aménagement du groupe Crédit Mutuel. Absolument. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème assez chaud, un thème d'actualité qui a marqué l'actu des 6 derniers mois dans le domaine. C'est l'objectif zéro artificialisation nette des sols. C'est dur à dire, hein.
C'est
zéro artificialisation nette des sols. Et la question, elle est très importante et elle concerne tous ceux qui ont envie de bâtir leur maison. Ça va stopper ou pas la construction de maisons individuelles. Je vous laisse avec Cédric Simonin. Emmanuel, ça va être chaud.
On va peut-être avoir une réponse en fin d'émission, oui. Pour tenir jusqu'au bout. Donc oui, c'est un sujet d'actu. C'est aussi un grand sujet de diction. Zéro artificialisation nette des sols, qu'on va appeler communément ZAN.
Le ZAN ou...
Ben, sinon, on va cracher partout dans le truc et c'est pas Covid. Donc, on fait attention. Donc, on va appeler ça ZAN. C'est un enjeu pour tous les gens qui ont envie de bâtir quelque chose, hein, maison, collectif, etc., sur les secteurs donnés. Ça va être une petite révolution, personne ne s'en rend compte, sauf chez nous, chez Igloo.
Oui, on est toujours
Premiers, on a pris l'expert en la matière. Donc déjà, une petite définition, je le répète une dernière fois, je ne le dirai plus jamais. Qu'est-ce que le zéro artificialisation net des sols, monsieur Armsdorff?
Bien, bon, le ZAN. En fait, l'artificialisation, c'est vrai que c'est le sujet chaud, mais on en parle depuis près de 35 ans de l'artificialisation des sols. Déjà avec la loi montagne et littoral de 86. Donc en 86, je devais être au collège ou au lycée, je ne sais plus.
Je me souviens.
Plus récemment, depuis 2021. En fait, l'artificialisation des sols, définition simple, on transforme un sol agricole, naturel ou forestier par une opération d'aménagement qui va artificialiser totalement ou partiellement ce sol et lui affecter une nouvelle fonction. Donc là, on est en train d'en perdre quelques-uns.
Oui.
Fonction urbaine pour de l'habitat, pour du commerce, pour du tertiaire ou un équipement d'infrastructure. Pour faire simple...
Si j'ai bien compris peut-être. Hein, est-ce que alors, c'est un sol qui n'était pas forcément destiné à la construction et du coup... On le transforme et il est maintenant destiné à la construction.
Par exemple, en fait, c'est une définition très, très générale qui mérite d'être précisée. On transforme une forêt en parking pour véhicules, c'est de l'artificialisation des sols. Okay. On voit l'impact sur la biodiversité.
Ouais.
Vous transformez une terre agricole en espace vert, c'est aussi de l'artificialisation des sols. Donc là, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui en France, hein, selon les différentes sources, je me suis aussi renseigné, hein, on est entre 16 000 et 60 000 hectares d'artificialisation des sols en France chaque année. Donc c'est comme les manifestations, donc 16 000, 60 000, c'est le grand écart.
Selon la police et selon les manifestants.
Tout à fait. Du coup, on a un ratio par contre qui est unanimement reconnu. En fait, c'est les mètres carrés artificialisés, donc cette transformation, ramenée à la densité de population. Et en France, ce qu'il faut retenir, il y a un chiffre, c'est 47 km² pour 100 000 habitants d'artificialisés chaque année. En Italie, on est à 26, au Royaume-Uni, on est à 30, en Allemagne, on est à 41 km². Ce qui veut dire qu'en France, et c'est là où est le problème, on artificialise beaucoup plus que nos voisins européens directs, et en tout cas beaucoup plus vite que l'augmentation de la population. Et au rythme actuel, dans les 10 prochaines années, si on tient ces 47 km² pour 100 000 habitants, on aura artificialisé l'équivalent du territoire du port du Luxembourg. D'où l'intérêt de cette loi ZAN. L'objectif à retenir, s'il y a un truc à retenir dans notre échange, c'est diviser par deux l'artificialisation des sols engagés d'ici les 10 prochaines années.
Espérons que ça soit aussi l'un des thèmes de la prochaine présidentielle, parce que c'est un sujet très important. J'avais une autre question, pardon, avant d'entrer dans le sujet plus précisément. Est-ce que l'inverse existe? Est-ce que un sol qui a été construit, on peut le rendre...
C'est un des objectifs portés justement par ce projet ZAN, qui est porté par le plan biodiversité. En fait, l'artificialisation des sols, elle a un impact notamment sur la faune, sur la flore. Hein. J'ai regardé rien que la population, le nombre d'oiseaux, en fait, il a été réduit de près d'un tiers depuis les 15 dernières années. Et l'artificialisation des sols est liée à ça. on appauvrit la capacité des sols à capter du carbone, on favorise les phénomènes d'inondation, on parle du moteur, c'est un moteur de l'étalement urbain, donc cette périurbanisation, ce mitage des territoires. Et l'objectif du ZAN, donc de diviser par deux l'artificialisation des sols dans les 10 prochaines années, il est tenable si effectivement on réduit l'artificialisation brute des sols de moins 70%. Et vous le disiez, les surfaces artificialisées, ça peut être des friches industrielles, des friches commerciales, il faut rendre à la nature. Donc c'est transformer ces sols artificialisés aujourd'hui en nature, en parc urbain, en espace nouveau perméable. Et ça, c'est une vraie gageure, hein, va falloir le faire. Et les leviers pour les territoires, ben
alors,
ça...
on va en parler avec Cédric parce que je vous
ai un peu... Parce que là, vous êtes en train de me foutre mon émission totalement en l'air.
Mais non, mais je vous ai coupé un peu l'herbe sous le pied.
Alors là, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, joli, bien joué.
Ouais.
Donc, foutu en l'air toute mon organisation d'émission. Je ne sais plus où j'en suis.
C'est pas grave.
Donc, ou alors on laisse faire un monologue et puis moi, je vais prendre un café.
D'accord. Allez-y. Donc,
laissez-moi
allez-y.
Reprendre.
Mais allez-y.
Alors, je ne sais plus où j'en suis du tout. Vous m'avez foutu tout en l'air. Allez, donc je vais passer les questions que j'avais envie de poser, puisque vous avez répondu, voilà. Allez, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc maintenant, qu'est-ce que ça implique pour les territoires et qu'est-ce qu'il faut faire?
Il est énervé.
Voilà, ça va,
vous voyez. Non, mais c'est vrai que l'impact sur les territoires... Alors surtout, n'arrêtons pas de construire. Hein. N'arrêtons pas de construire. L'idée, c'est effectivement de limiter l'artificialisation brute des sols. Donc ça passe par plusieurs leviers. On va parler de la maison individuelle, donc il y a la densification. Vous voyez bien, on mesure les logements vacants, d'accord ? Il y a des bureaux vacants, il y a des résidences secondaires occupées par intermittence, donc il y a une sous-exploitation déjà du bâti existant. On va parler de densité, donc la maison individuelle, et on va parler également du mitage des territoires, ce desserrement des villes en première, seconde couronne, parce qu'on ne trouve plus de foncier dans les cœurs urbains. Si on a deux actions à mettre en œuvre par rapport à la loi ZAN, c'est limiter cette artificialisation brute, mais dans les enveloppes urbaines existantes, okay, vraiment dans les enveloppes urbaines existantes, et rendre à la nature, donc renaturer ce qu'on disait, des zones qui sont actuellement artificialisées mais en friche, ben ça, effectivement, on peut transformer ces terrains et les rendre nouveaux, renaturer ces sols dégradés. Ça coûte cher, je ne sais pas si on va parler d'économie, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas... Derrière, il y a des questions de coûts. Vous voulez que je vous parle de l'impact du coût sur le logement ?
Ben, vous avez parlé... Alors effectivement, ce sera l'occasion de faire une autre émission sur la partie plus tournée vers l'économie.
L'économie.
Ça peut impliquer. Et des difficultés aussi que ça peut impliquer aussi pour les acteurs de la construction. Vous avez évoqué le sujet de la maison individuelle. J'aimerais qu'on fasse un focus là-dessus. La question que je m'étais posée, c'est qu'est-ce que ça implique pour le marché de la maison individuelle ? Est-ce que c'est un marché finalement qui va être déstabilisé par cette loi ZAN, et puis s'il est déstabilisé, est-ce qu'il y a des solutions qui sont possibles?
C'est clair que l'habitat, il est responsable à hauteur de 50% de l'artificialisation des sols. Ça, c'est un constat. Nous, vous êtes professionnel, je suis un professionnel de l'immobilier, donc on a une part de responsabilité dans l'artificialisation des sols. Et en plus, le logement individuel dont vous parlez, il est majoritaire par rapport au collectif. Souvent, le collectif est construit sur des surfaces déjà considérées comme étant artificialisées, d'où la précision de cette définition, hein, la forêt en parking, la terre agricole en espace vert. On n'est pas sur le... Il faut préciser cette définition. Le logement individuel, il reste néanmoins au sommet des options d'achat, hein, plébiscité par les ménages en France. Les gens ont envie de vivre en maison individuelle. Hein. J'ai envie de vivre en maison individuelle. Je n'ai pas forcément envie de vivre dans un appartement, dans une copropriété. Ce n'est pas forcément mon rêve. La maison individuelle, c'est le rêve des Français. Mais c'est le rêve des Français qu'ils aient 30 ans, 40 ou 50 ans. Et ce rêve, il existe depuis 30 ans. Il y a 30 ans, on parlait déjà de ce rêve de la maison individuelle. La maison individuelle, elle est aussi riche par sa diversité. Vous avez le logement individuel en diffus. C'est une densité, vous voyez, on revient sur la densité, c'est 5 logements hectares. C'est rien, 5 logements hectares, le ménage qui rencontre un propriétaire, il achète un terrain de 1000 mètres, 1500 mètres carrés, 2000 mètres carrés, disons 10 arts, 15 arts, 20 arts, et il va mettre sa maison. Ça, effectivement, aujourd'hui, dans une démarche de sobriété foncière, ça ne doit plus être possible. Là j'en conviens tout à fait. Et ça, c'est la moitié de la maison individuelle construite en France aujourd'hui. les opérations adossées à des procédures d'urbanisme que sont le lotissement et la zone d'aménagement concerté, c'est qu'un quart de la maison individuelle produite en France. Et ça, il faut le poursuivre. Donc oui, on va continuer à produire de la maison individuelle. Il faut que les collectivités autorisent davantage les professionnels à s'inscrire dans des opérations dites organisées par les procédures de lotissement et de zones d'aménagement concertées, où on est sur des densités non pas de 5, mais de 20 à 40 logements hectares, donc ça change complètement la donne, et à nous, professionnels, d'insuffler dans ces opérations davantage d'urbanité, c'est-à-dire on va produire de la maison individuelle, mais on va aussi mettre de la maison individuelle groupée, on peut faire des hameaux compacts, de la promotion, mais à dimension humaine. Bref, un vrai quartier de ville avec des commerces de proximité, etc. Et vous y adossez à ça toute la démarche environnementale. On parlait de renaturer les sols. Les collectivités vous parlent souvent dans les cahiers des charges, vous les connaissez bien en tant que promoteur, les trames vertes, continuité écologique, trames bleues, continuité de l'eau. Il faut y adosser les trames brunes, effectivement, de renaturation des sols avec toutes les fonctions essentielles du sol d'aujourd'hui. Donc, la maison individuelle, on va continuer à en produire, simplement sur des terrains plus petits qui répondent à la fois aux exigences de sobriété foncière, mais en même temps aux exigences, aux demandes de logement pour ce type d'habitat.
Très bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que vous faites ces métiers-là, des métiers où on construit des immeubles et donc des maisons individuelles aussi. Donc vous gagnez de l'argent en construisant des maisons, mais ces questions-là, elles sont importantes et vous pourriez très bien ne pas vous y intéresser.
Bien sûr. Et
ce n'est pas le cas. Donc c'est intéressant de le signaler aussi. Ça veut dire qu'il y a des entreprises vertueuses quand même.
Bah, il y a des entreprises qui ont une conscience écologique. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on fait du commerce et qu'on gagne de l'argent, c'est quand même le propre d'une entreprise.
Bien sûr.
Qu'on n'a pas de conscience, on n'a pas de valeur à côté.
Donc, c'est assez nouveau quand même ça. J'ai un peu le sentiment que c'est...
Sauf que économiquement, c'est un marché aussi qui est facteur de valeur ajoutée économique.
Ouais.
Et il faut juste regarder le prisme sous un autre angle. Et ensuite, il est aussi, il permet aussi, ou il favorise aussi l'innovation. Donc, c'est un sujet sur lequel qui me tient à cœur, c'est-à-dire que il implique une réflexion parce qu'il y a déjà une concertation avec un besoin qui vient au niveau des élus. Donc il y a un élément qui est plus contraint. Quand il y a une contrainte, généralement, souvent, on arrive à répondre à cette contrainte par l'innovation.
Absolument. Merci Emmanuel Hermsdorf.
Merci à vous.
Quand vous voulez,
invitation.
Évidemment, pour reparler du ZAN. Finalement, c'était pas si austère comme sujet.
Non.
C'était plutôt intéressant.
Même si vous m'avez chamboulé tout mon temps.
Bah oui, non, mais c'était très bien quand même. Bravo. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci.